On dit qu'un jour, et alors qu'il est Premier ministre, Winston Churchill décrit l'ancienne Union soviétique comme un rébus enveloppé de mystères au sein d'une énigme. C'est un peu de cette façon que beaucoup de chrétiens perçoivent le livre de l'Apocalypse. Rendus perplexes par ces images grandioses et son symbolisme surprenant, ils évitent d'étudier ce livre, pensant qu'il n'est que pour les théologiens de haute voltige. En fait, pas vraiment. Puisque même Jean Calvin, qui est pourtant le plus grand écrivain de la Réforme, étant donné qu'il a rédigé des commentaires sur tous les autres livres de la Bible, eh bien, il a laissé de côté le livre de l'Apocalypse. Pour sa défense, il faut dire qu'à son époque, l'urgence n'est pas de comprendre les événements qui se dérouleront à la fin des temps, mais de défendre le salut par la foi seule. Les réformateurs se soucient en effet d'enseigner que toutes les exigences morales de la loi de l'Ancien Testament, ainsi que toutes les cérémonies contraignantes liées à la pratique du judaïsme, ont été accomplis par la venue du Sauveur et par sa mort rédemptrice sur la croix. « Celui qui est la vie s'est manifesté », écrit l'apôtre Jean. D'abord en la personne de Jésus, puis dans l'Église par l'action régénératrice du Saint-Esprit. Contrairement à l'Israélite sous l'Ancienne Alliance, sous la Nouvelle Alliance, le croyant ne vit pas dans l'attente du salut à venir, mais il contemple la croix du Rédempteur qui a tout accompli pour lui. Cependant, l'Apocalypse apporte aux croyants la consolation et un puissant soutien dans les épreuves qu'ils traverseront tout au long de leur vie sur terre, surtout s'ils sont en proie à la persécution. Ce livre annonce les jugements que Dieu exercera sur ce monde hostile qui s'attache à l'Église et menace de l'écraser. L'Apocalypse peint le triomphe des élus de toute nation, qui reviennent de la grande tribulation, ainsi que la victoire finale du règne du Christ, célébrée par les cantiques célestes des rachetés. L'Église est appelée à de cruelles souffrances, mais elle reprend par des louanges à son chef, qui est plus fort que le prince de ce monde, et elle se réjouit d'avance du jour où les ravages du péché seront réparés, ou la communion de l'homme avec Dieu, parfaitement rétablie, fera oublier à l'exilé du jardin d'Éden les amères douleurs qui ont été les conséquences de sa chute. La fin de l'Apocalypse correspond donc, en quelque sorte, au commencement de la Genèse, car le cycle des destinées de l'humanité est achevé. Le mal est vaincu, la justice et la miséricorde éternelle ont triomphé, les mystères de la vie sont expliqués, tout est accompli, les révélations de Dieu sont closes. Non seulement l'Apocalypse est le dernier des livres inspirés par le Saint-Esprit, mais il complète et achève le cercle des grandes vérités bibliques commencées dans la Genèse. Les principales vérités sont les suivantes. La Genèse, le premier livre, révèle le commencement de la race humaine dans un environnement paradisiaque. Mais l'Apocalypse, le dernier livre, dévoile l'éblouissant royaume de Dieu à venir. Le premier montre pourquoi Dieu a refusé à l'homme le droit de manger du fruit de l'arbre de vie. Mais le dernier annonce que l'homme pourra, un jour, manger de ce fruit. La Genèse décrit le premier acte de rébellion de l'homme contre Dieu, mais l'Apocalypse promet qu'un jour l'homme vivra en pleine harmonie avec son Créateur. La Genèse rapporte le premier meurtre, Caïn, qui tua Abel, ainsi que toute une liste de péchés, mais l'Apocalypse promet une cité où rien d'impur ne pourra y pénétrer. Nul homme qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges n'y entrera. Seuls y auront accès ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Le premier livre sacré explique que le péché de l'homme est à l'origine de toutes les tragédies humaines, de tous les malheurs des hommes, de la maladie et de la mort. Mais le dernier livre sacré déclare « Il, Dieu, essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance. Car ce qui était autrefois a définitivement disparu. » La Genèse nous révèle que l'Éternel a maudit l'homme et la création. Mais l'Apocalypse promet, il n'y aura plus aucune malédiction. La Genèse nous fait découvrir le diable pour la première fois et le présente comme le tentateur de l'homme. Mais l'Apocalypse décrit sa fin et son châtiment éternel. Le premier livre sacré annonce qu'un jour, la tête de Satan sera écrasée. Et le dernier livre sacré le montre défait et vaincu à tout jamais. L'Apocalypse est le récit du voyage d'un visionnaire dans les coulisses de l'histoire et dans le monde divin. Il traite de la question clé, héritée des prophètes de l'Ancien Testament, le triomphe de Dieu sur le règne apparemment victorieux du mal. Si je néglige l'Apocalypse, je me prive d'un riche trésor de vérité divine, car il se déclare inspiré de Dieu. Et quelqu'un a compté d'environ les trois quarts des versets de l'Apocalypse se rapportent à l'Ancien Testament, qui est également d'inspiration divine. Avec l'Évangile selon Matthieu et l'Épître aux Hébreux, l'Apocalypse de Jean fait partie des livres du Nouveau Testament qui se réfèrent constamment aux textes de l'Ancienne Alliance. Comme ce livre s'inscrit dans la longue histoire du rapport de Dieu avec Israël et les nations, pour le comprendre, il est nécessaire de tenir compte de cet enracinement et de cette perspective qui, ensemble, forme son contexte. L'Apocalypse révèle Dieu, le Père, dans toute sa gloire et majesté, le décrivant comme saint, sage, tout-puissant, éternel, maître de l'univers et juge impartial. Ce livre confirme aussi les profondeurs de la dépravation humaine, car bien que l'humanité impie soit sous le jugement de la colère dévastatrice de Dieu, au lieu de renoncer à leurs pratiques coupables, les hommes s'endurcissent toujours davantage et refusent de se repentir. C'est aussi dans l'Apocalypse qu'on trouve le résumé le plus clair et le plus concis de la doctrine de la rédemption. On y lit « Jésus-Christ est le témoin digne de foi, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. Il nous aime. Il nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice. » Et il a fait de nous un peuple de rois, des prêtres au service de Dieu son Père. Le ministère des anges tient également une place très importante dans l'Apocalypse, puisqu'on y trouve le quart de tous les versets qui font référence aux esprits. Ce livre met aussi l'Église de Jésus-Christ en garde contre les dangers du péché et des compromis avec le monde, et il enseigne comment adorer Dieu comme il se doit, en esprit et en vérité. C'est dans l'Apocalypse qu'on trouve le plus de détails concernant la fin des temps, car ce livre décrit la dernière situation politique du monde. Il trace la carrière de l'Antichrist, le dictateur le plus puissant de toute l'histoire de l'humanité. Il mentionne l'enlèvement de l'Église dans les cieux, brosse le tableau de la période de tribulation qui dure 7 ans, dont la deuxième moitié appelée « Grande Tribulation ». La tribulation est suivie de la seconde venue de Christ qui s'engage dans la plus grande bataille de l'histoire de l'humanité appelée « Armageddon », qui est l'ultime triomphe de Jésus-Christ sur Satan et qui est suivie de son règne terrestre de 1000 ans. Après cette bataille, a lieu le dernier jugement des pécheurs appelé « jugement du grand trône blanc », ainsi que la situation finale, d'une part, des non-croyants qui sont précipités dans le lac de feu, et d'autre part, des rachetés qui habiteront le nouveau ciel et la nouvelle terre. Mais au-delà de ces nombreux enseignements, le livre de l'Apocalypse est avant tout la révélation de Jésus-Christ. D'ailleurs, le titre grec du livre signifie « dévoilement, divulgation ». Quand le vieux Siméon vient au temple alors que l'enfant Jésus est présenté au Seigneur, il prophétise sur lui et dit « Il est la lumière pour éclairer les nations, il sera la gloire d'Israël, ton, son peuple. » Dans ses épîtres, l'apôtre Paul utilise le mot « apocalypsis » pour parler de la révélation de vérité spirituelle, de la manifestation des fils de Dieu et de Jésus-Christ quand il reviendra. Le mot « apocalypsis » décrit toujours ce qui était préalablement caché et qui est maintenant révélé. L'apôtre Jean décrit Jésus-Christ au moyen de nombreux adjectifs et même des phrases entières. C'est ainsi que Jésus est le témoin digne de foi, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le vivant, celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des sept sangliers d'or, celui qui tient l'épée aiguisée à double tranchant, le Fils de Dieu dont les yeux sont comme des flammes ardentes et les pieds comme du bronze, celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles, le Saint, le véritable, celui qui tient la clé de David, celui qui ouvre et nul ne peut fermer, qui ferme et que nul ne peut ouvrir, celui qui s'appelle Amen, le témoin digne de foi et véridique, celui qui a présidé à toute la création de Dieu, lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, maître saint et véritable, fidèle et véritable. De nombreuses fois, Jésus est appelé l'agneau, et la parole de Dieu, roi des rois et seigneur des seigneurs, le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Le livre de l'Apocalypse affirme également la divinité de Jésus-Christ, car on voit qu'il possède les attributs et les prérogatives de Dieu, comme la souveraineté, l'éternité, le droit de juger les hommes et de décider qui vivra et qui mourra. Il reçoit aussi l'adoration et règne depuis le trône de Dieu. Enfin, et puisque Jésus possède les attributs divins, le livre de l'Apocalypse affirme qu'il est l'égal de Dieu le Père, car ce livre lui applique plusieurs fois des passages de l'Ancien Testament qui décrivent l'Éternel. Dans l'ensemble des Écritures, dans le livre de l'Apocalypse, la majorité des louanges sont adressées à Dieu le Père. Cependant, l'agneau, c'est-à-dire Jésus-Christ, est loué seul deux fois. Et le Père et l'agneau reçoivent ensemble les louanges trois fois. Maintenant, en ce qui concerne l'auteur du livre de l'Apocalypse, quatre fois il déclare être Jean, laissant entendre ainsi qu'il est si connu de ses lecteurs qu'il ne ressent pas la nécessité de s'identifier de manière plus précise. De toute façon, l'Église primitive est unanime pour affirmer que Jean, l'apôtre, est l'auteur de l'Évangile et des épîtres qui portent son nom, ainsi que l'Apocalypse. Le premier témoignage incontestable de l'existence de l'Apocalypse et de sa composition par l'apôtre Jean est celui de Justin, martyr qui séjourne à Éphèse vers l'an 135. Dans son dialogue avec Tryphon, écrit entre 150 et 160, Justin dit « Chez nous, un homme du nom de Jean, l'un des apôtres du Christ, a prophétisé dans la révélation qui lui fut faite. Que ceux qui auront cru à notre Christ passeront 1000 ans à Jérusalem. Après quoi arrivera la résurrection générale, et en un mot, éternelle, pour tous sans exception, puis le jugement. » Étant donné que Justin vit à Éphèse et que l'église de cette ville est l'une des sept églises à qui le livre de l'Apocalypse s'adresse, son témoignage revêt une importance capitale. À peu près à la même époque que Justin, années 100 à 150, on trouve dans les écrits gnostiques des passages de l'Apocalypse et ils sont attribués à Jean, frère de Jacques et fils de Zébédée. Toujours au second siècle, on a le témoignage d'Irénée qui fut évêque de Lyon et qui avait passé sa jeunesse en Asie mineure. Dans son ouvrage « Contre les hérésies », Irénée fait de fréquentes allusions à l'Apocalypse. Il en tire une série de citations, puis déclare « Jean aussi, le disciple du Seigneur, dit des choses dans le livre de l'Apocalypse lorsqu'il contemple l'avènement sacerdotal et glorieux du royaume de Dieu. » Plus loin, dans le même ouvrage, il ajoute que « Si quelqu'un devait examiner de près les choses que les prophètes ont dites au sujet des temps de la fin, ainsi que les choses que Jean, le disciple du Seigneur, a vues dans l'Apocalypse, il découvrira que les nations seront frappées des mêmes fléaux universels que ceux dont fut frappée l'Égypte en particulier. » Toujours dans le même ouvrage, et pour combattre la variante du chiffre de la bête, que certains prétendent être 616 au lieu de 666, Irénée invoque le témoignage de ceux qui ont vu Jean face à face. Pour nous, le témoignage d'Irénée est précieux, parce que cet homme, d'une part, a été disciple de Polycarpe, lui-même disciple de Jean, et d'autre part, il est originaire de Smyrne, une ville dont l'Église compte parmi celles auxquelles Jean adresse le livre. Au second siècle de notre ère, et à cause des persécutions, les chrétiens cherchent dans l'Apocalypse les consolations dont ils ont besoin. Les églises de Lyon et de Vienne, dans le Dauphiné, adressent alors une lettre aux églises d'Asie mineure pour leur raconter la fermeté avec laquelle leurs martyrs endurent la persécution de l'an 177. Or, ce document emprunte à l'Apocalypse certaines de ces images. Ils écrivent, par exemple, que cette persécution est l'œuvre de la bête, que ceux qui l'ont subie sont les fidèles de Christ qui suivent l'agneau partout où il va. Mais, par humilité, il ne s'approprie pas le titre de martyr, le réservant à Christ, le témoin digne de foi, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre, celui qui a présidé à toute la création de Dieu. Deux citations du livre de l'Apocalypse. Ils écrivent encore que le sang répandu des martyrs excitait toujours plus la fureur du légat et du peuple, semblable à la colère d'une bête. Vers la fin du deuxième ou du début du troisième siècle, le théologien et père de l'Église, Tertullien, déclare « Car nous professons aussi qu'un royaume nous a été promis sur la terre, mais avant le ciel, mais dans un autre état, parce que venant après la résurrection pour 1000 ans, dans une cité produite par l'œuvre divine, la Jérusalem descendue du ciel, c'est elle que l'apôtre appelle notre mère d'en haut. Ézéchiel l'a connue, l'apôtre Jean l'a vue. » À la même époque, toujours à la fin du deuxième ou du début du troisième siècle, Clément d'Alexandrie, 150 à 220, un autre père de l'Église, fait remarquer que c'est l'apôtre Jean qui est exilé sur l'île de Patmos. Or, comme l'Apocalypse a été rédigé sur Patmos par Jean, il ne peut s'agir que de l'apôtre Jean. Un peu plus tard, d'autres célèbres théologiens comme Origène, 185 à 254 au IIIe siècle, puis Marius Victorinus au IVe siècle, admettent comme un fait établi que l'apôtre Jean est l'auteur de l'Apocalypse. Tous ces témoignages prouvent qu'il est quasi inconvenable que les premiers chrétiens se soient trompés sur l'identité de l'auteur de ce livre depuis le moment même de sa rédaction. Pourtant, dans la seconde moitié du IIIe siècle, un certain Denis le Grand, évêque de l'église d'Alexandrie et disciple d'Origène, est troublé parce que beaucoup de chrétiens croient qu'il y aurait un jour un royaume terrestre de 1000 ans. Afin de lutter contre cette vision du futur, qu'il ne partage pas, il dit que c'est un autre Jean que l'apôtre qui a écrit l'Apocalypse, et il se lance dans une campagne contre la paternité de l'apôtre Jean. Ses arguments reposent principalement sur la différence de style et de vocabulaire entre, d'une part, l'Évangile et les Épîtres de Jean, et d'autre part, le livre de l'Apocalypse. Denis le Grand s'appuie sur un oui-dire selon lequel on dit que « il y a à Éphèse deux tombeaux, et que l'un et l'autre sont dits de Jean ». Sous l'influence des objections de cet homme, d'une part, l'Église d'Orient hésite jusqu'au Ve siècle à reconnaître l'autorité apostolique de l'Apocalypse, et d'autre part, l'Église de Syrie s'oppose également longtemps à ce livre, au point où l'Apocalypse ne figure pas dans la plus ancienne version syriaque du Nouveau Testament. Cette page de l'histoire nous rappelle que certains livres du Nouveau Testament ont dû subir l'épreuve du temps avant d'être reconnus comme inspirés de Dieu.